Voici la provision de Dieu pour nous aujourd'hui, notre pain quotidien, Évangile de Luc, chapitre 9. Et s'affiche sur vos écrans le verset de 1 Corinthiens 2, verset 9, pendant que vous cherchez l'Évangile de Luc, et je vous le lis. Ce que l'œil n'a pas vu en 2014, et pourtant on en a vu des choses. Ce que l'oreille n'a pas entendu, et pourtant on en a entendu des choses. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé. Mon Dieu a préparé quelque chose pour toi. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit de Dieu l'a révélé à nous. Mon rêve, ma prière, ce qui vient de mes entrailles en 2015, Seigneur, je désire avoir une révélation de Dieu pour 2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que sur cette prière, nous sommes d'accord? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil humain n'a pas vu, ce que l'oreille humaine ne peut pas entendre, Dieu l'a révélé à ceux qui le suivent. Il y a quelque chose de spirituel que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre. Et ce matin, mon thème est celui d'une transfiguration au-delà du visuel. En fait, il y a deux types de transfiguration dans le chapitre que l'on va lire, le chapitre de Luc, chapitre 9. En fait, ça commence avec un verset qui fait presque peur, qui est bizarre, parce que dans Luc 9, verset 27, Jésus dit « Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Est-ce que vous êtes présents ici ce matin? Est-ce que ça serait choquant de vous dire « Quelques-uns de ceux qui sont ici présents vont voir Dieu en 2015. » Ouh ! C'est ce que je veux. On a, vous savez, la vie passe tellement vite. Il y a beaucoup de jeunes dans cette église. Mais je suis heureux aussi qu'on ait quelques personnes qui ont plus d'expérience. Et plus vous rencontrez un papy, une mamie dans la foi, elle vous dira, ça passe vite. Ça passe très vite. Chaque jour compte. Tu te réveilles un matin, t'as 18 ans, tu te réveilles le lendemain d'après, t'en as 36. Et tu te réveilles après, t'es à 72 ans, t'as rien vu passer. Chaque jour compte. Il y a beaucoup de nos amis qui auraient aimé être là aujourd'hui. Combien vous avez de proches qui auraient aimé voir 2015 et qui ne voient pas 2015? Ils sont peut-être au ciel près de Dieu. Mais s'ils avaient un conseil à nous donner, ils diraient « Ah, profite de chaque jour de 2015 pour avoir une fraîche révélation de Dieu. » Et c'est le thème de ce matin. Pourquoi je vais parler de la transfiguration? Parce que je pense qu'il y a deux types de révélation de Dieu. Il y a une première qui est visuelle et il y a une seconde type de transfiguration qui est non visuelle. Je vais vous parler de la transfiguration visuelle, celle qu'on prêche souvent dans les églises évangéliques et qu'il y a beaucoup sur YouTube et sur Internet. C'est très vendeur. Et c'est très important aussi celle-là, c'est la révélation contemplative de Dieu. Puis après, je vous présenterai dans la deuxième partie la révélation pratique de Dieu. Il n'y en a pas une qui est bonne, l'autre qui est mauvaise. Les deux sont bonnes. Mais ce que Jésus va enseigner aux disciples, dans ce chapitre 9, il va dire, attention, si vous voulez voir Dieu, d'un côté, il y aura des fois où vous en aurez plein les yeux, ça sera visuel. Et parfois, vous verrez Dieu, mais votre œil humain ne pourra pas le voir. Vous devrez le voir par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui va vous éclairer, qui va vous donner de voir, d'entendre des choses que votre œil humain ne pourra pas voir. On est parti, on lit ensemble Luc 9. Luc 9, à partir du verset 28. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses deux compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma, les enveloppa. Il le voit, hein. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Amen. La suite est étonnante parce que le verset 37 nous dit « Le lendemain, comme ils descendaient de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. » Du milieu de cette foule, il y a un papa qui amène un enfant, qui fait toute sa souffrance parce que cet enfant est à la fois possédé et ça a des conséquences physiques dans son corps. Il est meurtri, c'est un enfant qui est malheureux. Et quand le démon vient, cet enfant est laissé et se frappe, etc. Et Jésus a tellement pitié qu'il vient et il donne, il fait un miracle extraordinaire pour ce jeune. Ce jeune est guéri instantanément. Les disciples ne comprennent pas et les disciples disent « Waouh, c'est génial, qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. « Waouh, ça nous a mis plein la vue, etc. » Jésus les amène un peu plus loin et puis il va leur présenter une deuxième transfiguration. Regardez, mais pas celle que vous avez pensée. C'est au verset 46. « Il s'éleva entre eux une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus connaissait les pensées de leur cœur, qu'ils avaient dans leur cœur. Il prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Amen. » En gros, je ne sais pas si tu as compris, mais Jésus prend le plus petit des petits, un petit enfant, le met au milieu et dit, quand vous avez vu cet enfant et que vous lui saisissez pour lui faire du bien, c'était moi qui étais dedans. Parce que celui qui accueille cet enfant m'accueille moi. Parce que j'ai la forme du plus petit parmi vous. Première révélation, la révélation contemplative. On est parti ensemble. Ça a commencé comment ? Une révélation contemplative, c'est quand tu vois Jésus face à face. Ouh. Voir Jésus face à face. Vous avez regardé ces témoignages des fois de certains hommes, femmes qui vivent dans les pays musulmans. J'ai vu ça sur un CD une fois, extraordinaire. Une femme qui n'a jamais entendu parler de Jésus de toute sa vie. Elle est en jeûne, elle vient de finir le ramadan, elle veut juste voir la gloire de Dieu. Et dans un éclair, dans un songe extraordinaire, ou même certaines, c'était physiquement dans la pièce, elle voit un homme vêtu de blanc qui leur dit « Je suis Jésus et je viens te révéler l'amour de Dieu ». Et cette femme qui n'a jamais prié, qui n'est jamais allée dans une église évangélique, qui n'a jamais fait de séminaire, de prière et d'intercession, qui n'a jamais vécu ne serait-ce qu'une minute, même d'un mauvais culte, elle voit Jésus en tête à tête, en face à face. Alors je dis, pourquoi moi, pentecôtiste, né de pentecôtiste, évangélique depuis toujours, qui ai fait plusieurs séminaires, des jours de jeûne et de prière, 7 réunions par semaine, j'ai jamais vu Jésus en face. Et vous? Vous avez déjà vu Jésus en face? Et sur les disciples, il y en a 3 qui vont avoir cette chance. Pierre, Jacques et Jean, ils vont être embarqués par Jésus. Il va les prendre seuls à l'écart et il va leur dire, on ne peut pas rester. Si on veut voir Jésus face à face, si on veut voir la gloire de Dieu, il va falloir qu'on monte. Vous avez déjà monté la montagne? Une montagne? Au début, vous démarrez, vous êtes enthousiaste. Vous dites, je suis en train de monter, yes! Au bout d'une heure de montagne, 2 heures de montagne, l'air, il y en a moins. L'oxygène se fait rare. La végétation devient pauvre. Et vous montez et vous entendez plus le bruit de la ville. Vous êtes obligé d'être déconnecté de tout. Et lorsqu'ils sont sur la montagne, c'est l'évangile de Marc qui nous en parle aussi. Ils étaient seuls et à l'écart. Et c'est là que Dieu va se révéler à eux en tête à tête. Le tête-à-tête avec Dieu, tu l'auras pas forcément dans une foule. La révélation contemplative de Dieu, tu pourras la voir dans un moment très calme, très puissant, très solennel, en fermant la porte de ta chambre. Et Dieu qui voit dans le secret peut se révéler à toi de façon extraordinaire. Et j'emploie à volonté le mot extraordinaire. Je dois être honnête, je dois vous le dire de nombreuses fois. J'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai ouvert ma Bible et j'ai dit « Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te voir. » Et j'ai prié, j'ai pas vu. Parce que c'était pas quelque chose d'ordinaire. Une révélation contemplative de Dieu, c'est extraordinaire. Mais j'ai dit, mais pourquoi je suis aussi frustré? Peut-être parce que j'ai trop regardé YouTube. Et je sais que certains d'entre vous, vous cliquez sur YouTube, Internet, tout ça, vous mettez vidéo de la gloire de Dieu. Oh là là, vous en avez plein qui s'affichent d'un coup votre écran, de tous les prophètes internationaux de la gloire céleste, etc. Et c'est comme une surenchère de celui qui va vous donner la plus grande révélation contemplative, intersidérale et planétaire de ce que Dieu a fait pour eux. Et vous en avez un qui va dire, je suis monté au ciel. Là-bas, j'ai été recueilli par un ange qui s'appelait Gabriel. Il m'a donné une outre. J'ai pu dans son outre. Et j'ai... Moi, je suis là. Oh, j'ai rien vu de ça, moi. Les disciples vont vivre, enfin, trois disciples vont vivre une expérience extrêmement rare. Mais la révélation contemplative n'est pas dans le flash.
Wow.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que on est des êtres humains. Et tout ce qui est visuel, c'est vendeur. Et beaucoup de pasteurs, de théologiens et de grands prophètes vont vous en mettre plein les yeux. Parce que on naturellement, chaque homme et chaque femme dans cette salle qui écoute ce message, vous avez envie d'en avoir plein les yeux. On est dans un monde où on est habitué à avoir des écrans partout. On veut voir! Et du coup, ça se transfère à notre foi et on est un peu dans une surenchère de qui va avoir l'expérience la plus glorieuse d'une transfiguration contemplative. Et après, ces personnes-là, s'ils sont logiques, ils se disent, aïe, 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 il y a trop de bruit ici. On va se mettre à part. Et c'est, l'idée est bonne. Vous voyez, je veux pas être catégorique parce qu'il y a du bon là-dedans et puis il y a du moins bon. Mais, si vous cherchez vous-même à voir la gloire de Dieu sans que ça soit quelque chose qui soit prévu par Dieu et que vous dites, bon, ma chambre ne suffit pas, je vais aller dans un monastère. Il y en a qui l'ont fait, hein, croyez pas que vous êtes les premiers à y avoir y pensé. Hein. Certains hommes sont dans l'adoration contemplative de Dieu pendant 80 ans dans un monastère et il y en a plein partout sur la terre. Mais si vous leur parlez vraiment cœur à cœur, vous leur demandez, t'as vu Jésus en tête à tête? Très peu vont vous dire, en fait, Moïse, il a même dit un jour, permets-moi de te voir. Et Dieu lui a dit, il y a un problème. Si tu me vois en tête à tête, t'es carbonisé. Donc, il y a une chimère, il y a un rêve. Comment vous le dire? C'est bon et ça peut être, il y a des limites aussi à aller vers le flash. Est-ce que c'est possible de mettre une petite vidéo? Ça vaut ce que ça vaut. Pardonnez-moi mes illustrations, mais regardez jusqu'au bout. C'est... Je vous laisse. Il n'a rien, je vous rassure. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu tellement plein les yeux, et il le dit lui-même après, parce que c'est quelqu'un qui écrit sa vidéo, c'est lui-même qui l'a posté sur YouTube. Et il dit, j'en ai tellement eu plein les yeux que je voyais plus les vraies choses. Il a eu un flash de voiture en face. Alors c'est une expérience incroyable, mais le flash, tu vas avoir une redescente rapide. Donc, autant mon grand A, c'est monter sur la montagne pour voir Dieu, je comprends. Mais la première chose que Jésus va te faire voir, c'est qu'il va te faire voir une nuée qui va t'en mettre plein les yeux. Et il est dit, le texte biblique nous dit que Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu Dieu,
Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Parce que comme Moïse ne pouvait voir que la partie arrière de Dieu, parce que sinon il était carbonisé, on ne peut pas arrêter la chimère de dire « Je veux toucher Jésus en tête à tête, en face à face !» Parce que on est vraiment dans l'émotion, le tactile. Et Dieu dit, il y a très peu qui... Redescendez. La nuée vient, ils sont sur la montagne, il dit, je veux rester. Moi, j'ai vécu des temps de prière où, oui, Dieu a été visuel quasiment. Je peux vous dire, j'ai vécu des temps, je me rappelle très bien, il y avait un camp d'ado dans lequel il y avait une telle présence de Dieu dans la pièce. Il y aurait eu un couteau, un ciseau, on aurait pu couper la présence de Dieu tellement elle était réelle. Et je me dis, je veux ça tous les jours! Je veux un culte où la présence de Dieu me fasse vibrer, m'en mettre plein les yeux. Et c'est pas le cas. Alors on se dit, qu'est-ce qui va pas? C'est notre relation avec Dieu qui va pas? C'est notre église qui va pas? C'est mon mariage qui va pas? C'est parce que je suis mal entouré, il y a certainement des pécheurs autour de moi. Et vous allez chercher des explications pourquoi vous pouvez pas planter vos tentes. Et Jésus, une fois qu'ils en ont eu plein les yeux, leur dit deux choses. Il leur dit, vous ne raconterez à personne ce que vous avez vu. Mais Seigneur, ça te ferait de la pub. Ok. Quand sur YouTube, vous regardez un homme de Dieu hyper puissant et qui vous raconte une expérience hallucinante. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? C'est que je remarque que Jésus a dit à ses disciples, ne racontez rien de ce que vous avez vu, parce que sinon, vous allez créer quoi? Vous allez créer chez vos frères, parce qu'il y en avait d'autres, hein, il y avait Philippe, il y avait Matthieu, une énorme frustration, une comparaison, une jalousie. Et ils vont finir par être jaloux de l'expérience plus que de Dieu. Parce que est-ce que Jésus est avec eux tous les jours? Oui, Jésus est avec eux tous les jours. Et même une fois, Philippe a dit, montre-nous le Père! Et Jésus leur a dit, mais oh! Le Père est en moi, je suis dans le Père, vous me voyez tous les jours. Ah ouais, mais c'est pas fun ça, Seigneur. Nous, on veut un truc qui... Ouh! Alors Jésus va les faire redescendre. Ah, je sais, beaucoup de pasteurs vont vous dire, faut monter, 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 monter. Pouf! C'est une bulle là-haut. Alors, Jésus leur dit, la nuée, si vous y êtes, vous êtes morts. En fait, vous verrez Dieu, chacun d'entre vous, vous verrez Dieu, on verra Dieu, face à face au ciel. Parce qu'à cette époque-là, notre corps sera capable de supporter cette charge de lumière. Et tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente vous disent que là, dans le tunnel, au bout du tunnel, il y a une lumière, c'est pas, on peut pas la calculer en termes de blanc, c'est trop blanc. Notre corps ne peut pas supporter une telle lumière. Donc, attendez d'être prêt pour pouvoir voir Dieu en face à face. Et à part si vous vous appelez Fatima et que vous avez besoin de ce type de révélation, je pense pas que Dieu va le faire. Mais il va vous demander, grand B, d'écouter Dieu. Parce que la voix va dire, non pas, regardez mon fils bien-aimé. Non, la voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tu veux dire, Seigneur, qu'on a l'audio, mais on n'a plus la vidéo? Ouais, tu n'auras que l'audio. Et c'est pour ça que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est non pas le flash de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible, elle va t'obliger à faire l'effort d'écouter. Ah, je veux pas écouter. Vous aimez écouter les gens, vous? Moins que de voir. On préfère tous voir. Mais Dieu nous dit, voici, au commencement était la parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais la parole passe avant la lumière. Or, on est une société qui préfère la lumière plus que la parole. Parce que la parole va m'obliger à m'analyser et voir en moi tout ce que je dois changer. Elle va m'obliger à faire, à, à, à accepter un travail beaucoup plus long et beaucoup moins travail de canapé. Amen. Enfin, je m'encourage moi-même, j'en ai besoin.
Oui, merci Félix, tu es extrêmement gentil.
L'apôtre Paul, je vous donne une dernière illustration par rapport à ça. Quand je dis écouter Dieu, l'apôtre Paul, il a eu une vision extraordinaire de Dieu. Il nous en parle en 1 Corinthiens 12. Et il nous en parle, et j'aime trop la façon dont l'apôtre Paul apporte ça. Il dit, s'il fallait que je me vante de quelque chose, je me vanterais d'une personne qui a eu une révélation de Dieu. Dans son corps, hors de son corps, je ne sais.
Wow, dis-nous plus ! C'était qui ?
Je ne vais pas vous dire qui c'était. L'apôtre Paul ne se cite même pas. De peur qu'un jour, on le traite de prophète international de la gloire de Dieu et qu'on finisse par lui donner la gloire à lui. Alors il se tait. Et Jésus dit à ses disciples, vous vous taisez jusqu'à ce que chacun ait eu sa propre révélation au moment de la résurrection. Je continue sur l'apôtre Paul. Ok, l'apôtre Paul s'est tu et il dit, un ange du Seigneur, afin que je ne sois pas orgueilleux de ça. Vous vous rappelez ? M'a empêché de voir. Après cela. Donc réfléchissez bien quand même avant de vouloir voir Dieu en face à face. Je continue. Quel disciple était là sur la montagne ? Allez, restez avec moi là. Quel disciple était là sur la montagne ? Pierre, Jacques et Jean. Ok, est-ce qu'il y a un évangile de Pierre ? Non, il n'y a pas un évangile de Pierre. On pense que c'est Marc, son secrétaire, qui a écrit. Et la transfiguration, ça y est, mais ce n'est pas Pierre lui-même qui a écrit. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu parle de la transfiguration, mais il n'était pas lui-même présent, donc c'est du discours indirect. Luc, pareil, c'est écrit, mais il n'y était pas. Le seul qui a vu la transfiguration, c'était Jean. Vous savez quel est le seul évangile qui ne parle pas de la transfiguration ? Jean. Parce que c'est pas pour que tu sois malin ou que tu fasses le « wouh » que Dieu va te donner une révélation. Et c'est ça la limite, c'est que je me rends compte que si je suis honnête, à chaque fois je disais « Seigneur », même si c'était un moment très spirituel, « je veux te voir dans une vraie église, avec une vraie onction, avec un vrai pasteur !» Quelque part, il y a une bonne motivation, mais il y a tout de suite ma chair qui veut du visuel. Alors il me dit « non, descends Yvan, et écoute. » Et Jésus les fait descendre, et là, il leur dit, regardez, il y a un papa avec un enfant qui souffre. Vous voulez voir Dieu ? Regardez ce que Dieu va faire pour cet enfant. Et cet enfant est sauvé. Quelque temps après, il amène un autre petit enfant. Parce que naturellement, ils veulent tout de suite remonter. Ils disent, Seigneur, on veut des choses glorieuses ! On veut voir la gloire ! Mais on est tous comme ça. Et du coup, Jésus leur dit, vous voulez voir la gloire ? Vous voulez savoir qui est le plus grand ? Oh, j'imagine Pierre, Jacques et Jean. La tentation de leur raconter. Ça devait être l'horreur. J'espère qu'ils n'étaient pas comme moi. Qu'ils n'ont pas mes défauts et mon mauvais caractère. Parce que moi, quand j'ai vu un truc extraordinaire, j'ai quand même envie de l'utiliser un peu quand même. Vous savez, dans un repas de famille, réveillon, il n'y avait rien à raconter. Là, vous avez une bonne illustration. Là. Et là, les disciples sont en train de se poser. Mais qui est le plus grand parmi nous ? Je pense qu'il y a Pierre, Jacques et Jean qui ont dit « Bon, les frangins, c'est nous trois. Mais on ne peut pas vous dire pourquoi. » « Oh si, dis-nous !» La tentation de vouloir l'ouvrir pour raconter ce qu'ils ont vu en tête à tête. Et ils n'ont pas le droit. Et Jésus leur a donné cet ordre très strict en Marc 9:9. Il a dit « Vous n'en parlez pas tant que les autres n'ont pas eu leur propre révélation de Dieu. » Wow. Allez, deuxième partie avant qu'on se quitte. Il y a une révélation qui est accessible à tous. C'est la révélation du petit enfant. Et quand je lis cette révélation, pourquoi je dis active ? Parce que elle va t'obliger à changer ta vision. Parce que c'est plus tes yeux naturels qui doivent voir. C'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au sentiment, au cœur humain. L'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu te le révèle. Oh, mais ça me déstabilise parce que
ça veut dire que je dois plus fonctionner de façon charnelle, je dois plus fonctionner de façon très humaine, très comme mon caractère. Et il prend ce petit enfant et dit, si vous n'accueillez pas cet enfant, vous allez me manquer. Matthieu 25, c'est possible de mettre Matthieu 25? Est-ce que vous êtes prêt à être devant le trône de Dieu au ciel? Non, je sais, ça fait un peu peur quand même. Vous avez un peu peur? Ouais, moi ça m'arrive aussi quand même. Même si je suis à la fois impatient et puis à la fois j'ai peur de ce qu'il va me dire. Bon ben, en fait, c'est déjà écrit ce qu'il va vous dire. C'est écrit dans Matthieu 25 parce qu'il y a le dialogue de ce qui va se passer dans le ciel quand tu vas y arriver. Il est dit au verset 31, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Donc là, par contre, on le verra en tête à tête. Hein. Là, ça sera très contemplatif. Il prendra place sur les trônes glorieux. Verset 34, après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prendre possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car, verset 35, on lit ensemble, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim? Je t'ai jamais vu, moi. Je t'ai jamais vu. J'aurais rêvé te voir, mais je t'ai pas vu. Et Jésus dit, ils vont plus loin, il dit, mais t'avons-nous donné à manger, ou soif, t'avons-nous donné à boire, ou étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu, ou malade, prisonnier, nous sommes venus te rendre visite? Excuse-nous, Seigneur, on a raté ça. Hein. Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, à chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Est-ce que tu comprends ce matin? En fait, Dieu se révèle à toi, mais tu veux pas le voir sous cette forme-là. Dieu, il s'est révélé à toi quand tu es rentré dans l'église. À chaque fois que tu fais quelque chose pour le moindre des enfants de Dieu, si tu prenais les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit et le vrai cœur de l'esprit, tu te rendrais compte que c'est à Dieu que tu l'as fait. Je pense à ceux qui étaient à la bienfaisance hier matin, et qui sont allés donner des colis tout simples. Il faisait froid, les gens étaient de mauvaise humeur, ils étaient en retard, alors qu'il y avait d'autres bénévoles dans l'église qui eux étaient au chaud, qui avaient le droit du café. Franchement, c'est pas juste. Eh ben, je pense que chaque bénévole de la bienfaisance qui a donné ne serait-ce qu'un petit sachet de patates à quelqu'un qui avait faim, a vu Jésus. Mais sauf que Jésus était caché derrière Fatima. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a du mal à voir Jésus au travers, parce qu'on veut que du visuel. Et mon cœur et ma prière pour 2015, c'est Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les choses que j'arrive pas à voir naturellement. Ouvre mon oreille pour que je puisse entendre les besoins des gens que j'arrive pas à entendre parce que je dis j'ai suffisamment de problèmes déjà moi-même. Seigneur, donne-moi le cœur pour pouvoir ressentir ce que tu voudrais faire pour les gens. Et c'est quand tu donnes le café que tu fais la sono. Merci pour Fanuel qui a la sono, la vidéo. Merci pour tous ceux qui sont levés tôt dans l'église. Et je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je risque d'oublier quelqu'un. Mais à chaque fois que vous avez fait cela pour un des frères et sœurs, des fois on dit, bon alors, est-ce qu'il faut faire du social? Faut que j'aime les gens? Faut que je donne plus, etc. C'est vrai. Mais ça commence par la famille de Dieu. Parce que Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait cela, pas à l'un des petits. Il dit, à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères. Écoutez, on aime tous donner pour les enfants au Vietnam. Mais par contre, pour Matthieu, 8 ans, qui vient à l'église des enfants et qui a tiré un ballon de foot dans votre voiture la semaine dernière, vous n'avez pas envie d'être très chaleureux. Or, quand tu vas prendre Matthieu par la main et tu vas lui dire, écoute, ça m'énerve ton histoire de ballon là. Mais écoute, puisque tu l'as pas fait exprès,
je vais te dire ce que Jésus a fait pour moi. J'ai fait plein de bêtises et Jésus a pardonné mes bêtises. Alors, je vais te faire un truc. Je vais, au lieu de te râler dessus, je vais te faire un bisou. Bien sûr, ça m'a... Oui, naturellement, la chair, elle devient vite en contrôle. Hein. Mais vous la refaites. Moi, je vais te dire, je vais te faire ce que Jésus aurait fait pour toi. C'est que je te pardonne. Mais recommande, non, je te pardonne. Et tu vas commencer à voir chacun des chrétiens, des proches que tu as dans l'église. Tu fais un service même ridicule. La restauration, vous avez intérêt de faire des bisous à Angélique aujourd'hui. Hein. Parce qu'à chaque fois que vous ferez un bisou à Angélique à la restauration et qu'il passe toute cette matinée pour qu'on puisse être béni, c'est à Jésus que vous le faites. C'est hyper concret, ça. Ouais, mais pasteur, moi je veux une révélation plus... Tu peux pas séparer le social du spirituel. C'est entremêlé au dernier degré. La preuve. Il y a quelqu'un de riche qui vient vers Jésus et lui dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vraie, quoi, le Zoé, la wow! Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Oui. Est-ce que tu l'as fait? Et regardez ce qu'il répond. Il dit, oui, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, parce que j'ai respecté ses commandements. Tu aimeras, il est dit, donc, honore ton père et ta mère, et je l'ai fait. Je ne commettrai pas d'adultère, et j'ai pas commis d'adultère, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et Jésus lui dit, c'est très, très bien. La première partie est nickel. Alors, puisque tu veux être parfait, applique la seconde. Donne tous tes biens aux pauvres et viens et suis-moi. Pardon? Non, moi j'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et toute ma pensée. Mais le second commandement alors, je vais surtout appliquer le premier. Moi je suis d'accord d'avoir une semaine de prière. Je suis prêt à prendre un temps avec Dieu, moi, perso, dans ma chambre. Ouais, mais quand tu sors de ta chambre, qu'est-ce que tu vas faire de la gloire que tu as vue? Ouais, tu vas falloir descendre. Et tu vas devoir aller écouter quelqu'un. Est-ce que c'est possible? Je plutôt que de faire, de réutiliser en citant Claude Hood, qui m'a interpellé, moi, à titre personnel, parce qu'avant de prêcher les messages, je me fais percuter moi-même par l'Esprit de Dieu, enfin, du moins, j'essaye. Est-ce que c'est possible de mettre juste un instant? Je préfère lui, voilà, c'est lui qui a cette pensée de Dieu et on va juste écouter un instant.
Après, on... Par l'esprit, il appelait cette image de nos yeux spirituels qui ont besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit et partout dans les Écritures. Dans Zacharie chapitre 11, il est écrit malheur au berger à l'œil desséché et à l'œil éteint. Laissez-moi vous poser une question avec amour, une question qui est sans jugement, sans condamnation, sans légalisme. Mais une question qui est très, très importante. Est-ce que votre œil s'est desséché? Est-ce que vous êtes quelqu'un, un chrétien, dont l'œil spirituel s'est éteint? Vous ne voyez plus en ce moment la bonté de Dieu. Vous ne voyez plus tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne voyez plus les qualités dans d'autres personnes. Vous ne voyez plus la beauté de ce qui se passe dans votre église. Vous ne voyez plus la possibilité dans une certaine situation, une circonstance. Vous ne voyez plus comment Dieu pourrait... agir. Vous ne voyez plus une raison de vous lever le matin. Vous ne voyez plus une raison de servir Dieu. Vous ne voyez plus une raison de participer à l'œuvre du royaume de Dieu. Ayez, je vous en supplie, au nom de Christ, pour prendre l'expression de 2 Corinthiens 5, au nom de Christ, je vous en supplie, je vous exhorte, ayez l'honnêteté de cœur de dire, Seigneur, est-ce que mon œil s'est éteint? Est-ce que je suis quelqu'un qui est... Et là, il y a même dans Zacharie, et j'ai un frémissement, il y a dans Zacharie même un avertissement pour les bergers. Alors, je parle à mes amis, je parle à mes confrères et je parle aux serviteurs de Dieu que j'aime tant et que je sers passionnément. Il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus pénible, il n'y a rien de plus triste qu'un serviteur de Dieu qui a une connaissance, qui sait prêcher, qui sait enseigner, qui sait diriger, qui peut tout dire et tout faire, mais son œil s'est éteint. Il ne voit plus la moisson, il ne voit plus le miraculeux, il ne voit plus tout ce que Dieu pourrait faire. La communion de l'esprit, c'est l'œil n'a pas vu, le cœur de l'homme par lui-même ne peut pas imaginer, ne peut pas monter à son cœur les choses que Dieu a préparées, elles sont révélées par l'esprit. À l'Église des temps de la fin, Il dira à la Odyssée, tu ne vois pas, tu es aveugle, tu te crois que tu penses que tu as tout, mais tu ne vois pas ta pauvreté, alors je te conseille de oindre tes yeux afin que tu puisses voir.
Merci. Oui, c'est, tout est bon, hein. Vous pouvez tout écouter, aller sur Internet, sur le site de Nouvelle Vie, c'est vraiment très bon et waouh, ça, ça mérite vraiment d'être écouté. Je conclue avec ce passage qu'un pasteur de Paris, il a écrit en 1800, je crois que c'était en 1890, il a écrit un petit conte de Noël. Ce pasteur, c'est Ruben Sayens, c'était pasteur d'une église qui était au centre de Paris, je crois que c'était dans le 12e arrondissement ou quelque chose comme ça. Et Ruben Sayens a écrit une histoire qu'il a intitulée Le Père Martin. Et il a dit, parce que les hommes d'avant avaient les mêmes problèmes que nous, hein. Et son histoire, son conte est génial. Laissez-moi un instant. Le Père Martin était un vieux cordonnier qui toute sa vie avait été fidèle à Dieu et qui, un petit peu comme Siméon, avait fait cette prière, « Seigneur, je veux pas mourir avant de t'avoir vu. Laisse-moi la chance de te voir. » Alors, il a dit, il a pensé à Siméon. Vous savez, Siméon avait touché le bébé Jésus dans le temple. Vous vous rappelez de ça? Et du coup, le Père Martin, qui est cordonnier et qui faisait des chaussures, il a préparé une toute petite paire de chaussures, en taille 20, tout petit. Préparé. Et puis il a dit, Jésus, si tu passes dans ma boutique aujourd'hui, je te mettrai ces chaussures. Et le problème, il s'est mis à la fenêtre et puis il a dit, Seigneur, tiens ta promesse, viens me visiter, je veux te voir. 13h, 15h, 18h. Le monde passait, mais pas Jésus. 21h. Il y a une dame. Vous savez, un petit peu comme on voit des fois ça existait déjà, hein. C'était pas, il venait pas de Roumanie à l'époque. C'était pas des personnes roms, mais c'était un peu la même souffrance. Et une dame avec son petit bébé qui passe devant les shops. Et elle voit que le petit bébé, il a pas de chaussures. Alors elle se dit, bon, vu que Jésus est en retard, au moins les chaussures vont servir à quelqu'un. Venez madame, j'avais prévu pour Jésus, mais tant pis, allez, mettez-lui ça, il va y avoir les pieds chauds. Merci monsieur Martin, elle est partie. Puis le temps passe, 22h, il avait préparé le repas au cas où Jésus vienne, un repas un peu copieux du coup. Personne. Il se voyait pas manger cette grande assiette tout seul. Alors il voit son ami le clochard qui était au coin de la rue là. Il dit, allez, viens chez moi, c'est bon. Si Jésus ne se pointera pas ce soir, viens. Il le fait manger. Et puis après, il dit, Seigneur, quand même. À l'heure de son coucher, il dit, tu m'avais dit que je te verrais. Et là, il voit une image très nette du visage du petit enfant à qui il a donné les chaussures et du clochard du coin de la rue. Et il voit leur visage et à l'intérieur, il dit, Jésus, j'étais là et tu m'as donné des chaussures. J'étais là et tu m'as donné à manger. Mais ça, voyez, je conclue, je vous demande pas de faire des œuvres sociales pour du social. Parce qu'on pourra pas, à nous seuls, remplir et proposer des solutions à toute la misère du monde. On pourra pas aider toutes les personnes dans le besoin. Mais ça commence par ta famille, par l'église, puisqu'il est dit à nos frères et sœurs en premier. Et si t'as vraiment surplus au reste, et il le dit, mais comment faire pour donner? Parce que même dans ma famille et même dans l'église, les besoins me dépassent largement. Alors il dit ce que l'œil humain ne peut pas voir. Parce que je ne sais pas à qui donner, il y a tellement de gens à qui je peux donner. Ce que mon oreille ne peut pas entendre, parce que j'entends tout le monde qui me dit « Ah, j'aimerais bien que tu fasses ça. » Ce que mon cœur, il peut se faire manipuler, je peux me faire manipuler moi. Saint-Esprit, révèle-moi quel est ce que je dois faire aujourd'hui, spirituellement, pour voir Jésus dans quelqu'un. Et c'est une transfiguration active, en plus de la transfiguration contemplative. Vous avez compris ce matin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un temps sur la montagne, vous avez besoin d'être ressourcé par Dieu, et si vous avez la chance de vivre Jésus en face à face, c'est extraordinaire. Mais taisez-vous, gardez-le pour vous, louez Dieu, et redescendez derrière, et montrez par vos œuvres que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Cette année 2015 aura du sens. On ferme les yeux ensemble. À Jésus. Oh. Seigneur, je te remercie pour toute personne que tu as mis sur ma route en 2014, que j'ai pu aider. C'était une grâce de pouvoir les aider. Je te remercie aussi pour tous les chrétiens, mes amis, qui ont une pensée, un encouragement pour moi en 2014. Merci, Seigneur. Mais je te demande pardon pour toutes les personnes qui sont passées devant moi. Je me suis pas arrêté, j'ai tracé ma route. Alors que c'était toi qui étais assis. Ma prière pour 2015 avec mes bien-aimés ici présents ce matin, c'est que tu me révèles spirituellement où est-ce que tu es et qui tu veux que je bénisse du 4 janvier au 31 décembre 2015. Amen. 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 Vous savez, les gens qui sont les plus resplendissants dans une église, c'est rarement ceux qui vont vous parler des plus grandes révélations de Dieu. Les gens les plus resplendissants. Hein. Elle n'est pas là, vous ne lui dites pas. Mais moi, quand je vois Monique, numéro un du nettoyage dans l'église, c'est celle qui m'a encouragé le plus en 2014. Parce qu'elle brille comme Jésus. C'est pas lié à son travail, c'est lié à sa mentalité. Parce qu'à chaque fois qu'elle l'a fait, j'ai vu qu'elle le faisait vraiment pour servir Dieu. C'était magnifique. Magnifique. Que Dieu vous bénisse et vous soyez fructueux en 2015.